Alors, nous approchons, une fois de plus, de la Pâque et des pains sans levain, les merveilleuses fêtes divines du printemps. Et plus que jamais, on doit se préparer pour ces jours spéciaux, avec soin et avec joie. Parce qu'écoutez, ces fêtes-là représentent notre délivrance. C'est le point de départ de tout le plan de Dieu. La Pâque, le sacrifice de Christ pour payer l'amende de nos péchés, et ensuite les pains sans levain, la part que nous avons à jouer, de continuer d'éliminer le péché de nos vies, une fois qu'on a été baptisé, avec la force de Dieu, parce que seul, on n'est pas capable. Et chaque année, c'est intéressant parce que les fêtes de Dieu sont cycliques, on revient, c'est comme une roue. On recommence chaque année. Et l'enseignement, tous les professeurs vont vous le dire, c'est la répétition espacée. On répète des choses. Et Dieu le sait, c'est le plus grand professeur qu'il n'y a pas. Et il sait qu'on a besoin de refaire ces choses-là, de revoir ces choses-là d'une année à l'autre pour toujours aller plus loin, pour croître dans la grâce et dans la connaissance. On ne peut pas, en tant que chrétien, rester stagnant. Si on n'avance pas, on recule, vraiment, parce que l'Église continue d'avancer, parce que le temps avance et parce qu'on doit être prêt pour les temps où nous sommes et pour les événements qui viennent aussi. Allez à 1 Corinthiens 5, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 5. Et on va commencer à lire au verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Ça, c'est notre rôle tout au long de notre vie chrétienne après qu'on a été baptisé. Et même avant, lorsqu'on est appelé et qu'on commence à changer des choses. On fait disparaître le vieux levain qui représente les injustices, les voies humaines, la nature humaine. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Et un peu plus loin, il dit, célébrons donc la fête. Non avec du levain de malice et de méchanceté, ce que chacun de nous étions avant et dont on doit se débarrasser encore des résidus en cours de route parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Célébrons donc la fête, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors bientôt, on va commencer notre ménage des pains physiquement, c'est-à-dire on va sortir de nos maisons, on va faire le ménage dans nos voitures, on va sortir de nos maisons, de nos bureaux, tout le levain qu'il peut y avoir, et on va se préparer pour ces grands jours-là. Et en même temps, on va pas commencer, mais on va continuer en l'accentuant l'examen de soi, pour voir où je suis rendu, moi, dans ma conversion. Où est-ce que je suis rendu dans mon chemin spirituel? Est-ce que Dieu se réjouit du chemin que j'ai fait cette année, ou si j'en ai pas fait assez, ou si j'ai d'autres choses à réaliser. Il y a des choses que j'ai pu réussir grâce à lui. Il faut que je le reconnaisse, ça m'encourage. Mais il y a des choses encore que j'ai besoin d'approfondir ou de voir, que j'ai peut-être même pas encore vu. Le cheminement, n'oubliez pas, de la vie chrétienne va jusqu'au retour de Christ. Et on ne sera pas parfait. Comme c'est écrit dans Philippiens 1:6, on ne sera pas parfait tant qu'on ne sera pas rendu au jour de Jésus-Christ, au moment où Dieu va rendre parfait ceux qui vont être en train de travailler fort vers la maturité spirituelle. Là, il va nous rendre parfait. On sera enfin capable de ne plus jamais pécher, d'avoir un discernement parfait, d'avoir un amour parfait. Et là, on va recevoir la vie éternelle parce qu'on va être capable d'être des êtres d'amour complet, de service, comme le Christ. Vous savez, l'appel de Dieu que vous avez reçu et que j'ai reçu, c'est un miracle. J'aime ça quand M. Appartient dit, tout geste de Dieu est un miracle. Toute intervention de Dieu est un miracle. Et par le fait qu'il vous a attiré au Christ, c'est qu'il a décidé que vous, il vous a appelé par votre nom, qu'il allait vous donner de comprendre le plan de Dieu, son existence, le but de la vie et tout ça. Et c'est pour ça que vous êtes là, et c'est pour ça qu'on se prépare à célébrer les fêtes. Dieu a accompli un grand miracle dès le départ dans votre vie. Et c'est la chose la plus spéciale de votre vie, l'appel de Dieu. Après, on se repent, mais ça nous est donné. Parce qu'on voit dans Romains que c'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance. Donc, c'est une chose aussi qu'on doit demander à Dieu de nous donner, et de nous donner peut-être encore plus à mesure qu'on avance dans notre cheminement spirituel. Vous savez, on commence, lorsqu'il nous appelle, puis on voit des choses qui sont évidentes à changer, qui sont vraiment contraires aux lois de Dieu. Ça va. Des fois, c'est facile à changer, des fois, c'est difficile. Mais plus loin, en cours de route, il y a des choses qu'on n'a pas vues encore et qu'on a besoin qu'il nous montre. Et là, on a besoin qu'il manifeste encore sa bonté pour nous les faire réaliser. Lorsqu'on se repent, qu'on regrette d'avoir causé la mort de notre Créateur, parce que c'est ça qu'a causé chacun de nos péchés, et qu'on demande pardon et qu'on ne veut plus vivre ces choses-là avec son aide, à ce moment-là, on est plongé dans les eaux du baptême. Ça représente le sang du Christ qui nous lave de toute notre vie passée. Et en sortant du tombeau liquide, on a laissé le vieux moi ancien dans ce tombeau-là qui est mort. Et on est une créature nouvelle. C'est le premier jour de notre vie spirituelle, réellement, de notre vie d'éternité. Et immédiatement après, le ministre nous impose les mains pour qu'on reçoive l'Esprit Saint de Dieu, sa puissance en nous, pour nous rendre capables graduellement d'obéir à ses lois. C'est ça qui se passe, c'est ça le phénomène extraordinaire. Et la conversion ou le changement dans ce sens-là, il dure toute notre vie. Il ne faut pas s'étonner de ça. Ça fait partie de notre cheminement spirituel. Il faut continuer à éliminer ce qui est contraire aux lois de Dieu. Regardez dans Romains 6, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 1 à 6. Que dirons-nous donc? C'est Paul qui parle. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Autrement dit, j'ai été pardonné au baptême. Est-ce que je vais continuer à pécher pour être pardonné davantage? Il y a certaines religions qui prétendent qu'on peut pécher encore plus parce que ça va rendre le sacrifice de Christ encore plus évident. On peut voir comment l'esprit de l'homme est tordu. Et il y a des religions dans le monde actuellement qui disent que l'être humain ne peut pas obéir aux lois de Dieu. Donc, ne vous en occupez pas. Faites au mieux, mais ne vous inquiétez pas d'obéir aux lois de Dieu parce que le Christ l'a fait à votre place. C'est le même scénario, là. Alors, c'est encore une façon détournée, un piège de l'adversaire pour éloigner les enfants de Dieu de la voie divine, de comment faire les choses selon Dieu. Le Christ l'a fait pour vous, ne vous en occupez pas. C'est vrai qu'humainement, on n'est pas capable. La première partie de l'affirmation est vraie, mais sauf qu'il faut voir dans la Bible que c'est par la puissance de Dieu qu'on peut y arriver, et seulement par le Christ en nous qu'on peut y arriver. Et la promesse est là, et Dieu est fidèle. Alors, voyez-vous, Paul, il y avait à affronter ce genre de faux raisonnement-là. Il dit, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, loin de là, pas du tout. Nous qui sommes morts au péché. Mort au péché, ça veut dire, j'ai regretté mes péchés. J'ai vu que ça a causé la mort de mon Sauveur. Puis, je ne veux plus les faire. Puis, j'ai été pardonné. Je suis mort à cette vie-là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Autrement dit, comment je pourrais vouloir répéter les choses qui ont causé la mort de mon Sauveur, alors que j'aurais regretté de les avoir faites. Ça n'a pas de sens. Il continue au verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Et ça, on a été plongés dans le tombeau liquide. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » La personne qui ressort du bain de baptême, c'est une nouvelle personne. C'est le premier jour de sa vie. Et c'est pour ça que Paul dit, on peut marcher à partir de là en nouveauté de vie. On laisse de côté, on laisse en arrière nos anciennes façons de faire. Et avec l'aide de Dieu, on travaille pour ne plus les répéter, mais au contraire, mettre en pratique ce que Dieu nous dit de mettre en pratique comme façon de vivre chrétiennement. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et si on est fidèle, On sait qu'à son retour, le Christ va transformer ceux qui vont être encore vivants et va ramener à la vie et à la vie spirituelle éternelle ceux qui lui ont été fidèles au cours de leur vie, mais qui auront été décédés à ce moment-là. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Regardez le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Ça, c'est notre mandat pour la fête des pains sans levain et la préparation à la Pâque, de s'examiner là-dessus, pour être certain qu'on fait le ménage dans notre vie et qu'on s'applique à ne pas répéter les fautes. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. On s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant à ce moment-là. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Parce que avant qu'on soit pardonné, on était sous la mort éternelle. On n'avait pas accès à la vie éternelle. Il a fallu que ça nous soit donné. De mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres dans vos façons de faire, d'agir, de parler, comme des instruments de justice. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Je vous cite Apocalypse 22, verset 11. C'est intéressant parce que c'est à la toute fin de la Bible. Et là, on sait que nous sommes parvenus à la porte de la fin des temps, pour ainsi dire. On voit les événements se précipiter. Et Dieu dit qu'au temps de la fin, que celui qui est injuste soit encore injuste. Il n'est pas appelé pour le moment. Mais les choses vont empirer dans le mal qu'on voit se développer dans le monde. Que celui qui est souillé se souille encore. Et après ça, il dit, par contre, que le juste pratique la justice. Que celui qui a été appelé, qui connaît mes voies, qui connaît mes lois, qui a mon aide, lui qui s'efforce, qui travaille à son salut, avec crainte et tremblement, comme dit la Bible. Et que celui qui est saint, c'est-à-dire qui a été appelé, qui a été mis à part du monde, dans sa façon de faire, que celui qui est saint continue de se sanctifier. C'est nos pains sans levain, c'est la préparation à la Pâque. De vouloir continuer à être encore plus différent de ce qu'on faisait avant, plus différent du monde qui nous entoure. Ça dénote, d'un côté, l'impuissance humaine, parce que seul, on n'est pas capable. Mais ça fait appel et ça nous fait avoir foi dans la puissance de Dieu par qui seules ces choses-là sont possibles. Psaume 39. C'est un passage que j'ai lu cette semaine qui m'a vraiment encouragé par rapport à la saison dans laquelle nous entrons. Psaume chapitre 39. Et on va lire à partir du verset 5. Et ça nous fait réaliser, comme David le disait ici, qu'on est impuissant, qu'on n'est rien. On est si peu. Regardez. Verset 5, Éternel. Dis-moi quel est le terme de ma vie. Autrement dit, Dieu, moi je suis un être humain, toi tu es éternel. Moi, ma vie a un terme. Fais-moi réaliser que ce terme-là, il n'est pas long. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile ou combien mon existence est peu de choses. Puis avez-vous remarqué une chose? Plus on avance dans la vie, plus on avance en âge, plus on réalise que la vie passe vite, plus on réalise que nos forces s'en vont, plus on réalise qu'on est peu de choses, et plus on réalise le besoin de Dieu. Il y a une grande école avec les années qu'on vit, pour celui qui veut s'arrêter puis y penser. Et voici, verset 6, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main. » Ma main n'est pas large, moi. Et la main de n'importe qui, même si quelqu'un avait des grosses mains, c'est quand même pas large. Il dit, tu as donné à ma vie la largeur de ma main. Puis je me rappelle, mon père était très âgé dans sa chaise berçante. Puis il nous disait, il avait 80 quelques années, puis il nous disait, les petits gars, ça passe vite une vie. Je vous parle de telle chose qui est arrivée il y a 20 ans, 50 ans, 60 ans. Puis il dit, me semble que c'est hier. Mais c'est ça, puis c'est la réalité. La longueur de notre vie, c'est pas plus que la longueur de ma main ou la largeur de ma main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. On le sait. On le sait. Verset 7. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Et parfois, on se crée plein d'agitations inutiles, alors que si on établit vraiment les bonnes priorités et on fait l'essentiel des choses, on arrête de courir, on va à l'essentiel des choses, on commence de goûter à vivre. Puis on commence à découvrir les profondeurs de Dieu à ce moment-là encore plus. Il s'agit de vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Autrement dit, moi, dans cette circonstance-là, dans cette condition-là où je suis rien, si peu, si limité, si faible, qu'est-ce que je peux espérer? En toi est mon espérance. Maintenant, comment mon espérance peut être en Dieu? Regardez, il dit dans la première partie du verset 9, « Délivre-moi de toutes mes transgressions. » En d'autres termes, je pourrais dire, « Père, donne-moi de vivre la fête des pains sans levain comme jamais, pour que tu me délivres de mes faiblesses, de mes misères. Montre-moi-les, donne-moi la force, parce que seul je suis rien, mais par toi je puis tout. » Alors aujourd'hui, dans le sermon, je vais vous donner simplement quelques points sur lesquels on peut s'examiner et on doit s'examiner avant la fête. Allez à Jacques 1, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, avant de commencer. Parce que je dois attirer votre attention sur un point avant. Je pensais à ça beaucoup cette semaine. C'est qu'il faut faire attention concernant la Pâque et les pains sans levain. Que ça ne soit pas une simple routine. Faut faire attention à ces choses-là. Parce que les êtres humains sont des créatures d'habitude, et quand on refait les mêmes choses un certain nombre de fois, le risque est qu'on fait simplement poser les gestes, mais sans vraiment de profondeur. Comprenez-vous l'idée? On a un risque à ça. Et je dirais que plus longtemps on est dans l'Église, peut-être le risque est plus grand. Quand on arrive, qu'on vient d'être baptisé, qu'on est là depuis un an ou deux, on s'efforce, on s'applique d'une fête à l'autre, on veut aller plus loin. Mais après 5, 10, 15, 20, 30, il y en a que ça va faire 35 ans qu'ils vont célébrer la Pâque et les pains sans levain, le risque est là de répéter des gestes. Oui, il faut faire le ménage des pains, il faut sortir le levain. Oui, il faut que je m'examine un peu, je vais faire 2-3 lectures, 2-3 études bibliques pendant quelques jours là-dessus. Et puis, on se présente le soir de la Pâque, puis on fait les gestes qu'il faut, avec bon cœur. Mais est-ce qu'on le fait de tout cœur? Que ça ne soit pas une routine. Et c'est ça la différence. Et n'oubliez pas que Dieu veut qu'on lui appartienne de tout cœur. Jacques 1, versets 23 à 25. Il dit, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, » ça, c'est l'autre partie. Quand on s'examine, on regarde si on a fait ce que Dieu nous dit. Puis là, on veut faire les changements. Si quelqu'un écoute la parole, mais ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Comme si j'arrivais devant un miroir, puis je vois une tache sur mon front. Je vois qu'il y a une tache. Il faudrait que je l'enlève, mais je me retourne, puis je m'en vais faire ma journée. Et je passe la journée avec cette tache-là que j'ai pas enlevée. J'ai la satisfaction de l'avoir vue. Mais je ne l'ai pas enlevé. Je l'ai encore. Je n'ai rien fait. Voyez-vous? Et ça peut devenir une simple routine comme ça. Dieu dit, ne faites pas ça. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Et quand on se prépare à la fête, la Pâque, des pains sans levain, on replonge de façon plus spéciale nos yeux dans la loi parfaite pour voir si on a avancé là-dedans. Puis dans quoi on doit changer encore. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, faisant quelque chose, faisant un petit plan pour sortir ce qui n'est pas correct de sa vie, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a une immense bénédiction à le faire, à ne pas considérer ça comme une routine. Au contraire, chaque année, je dirais, c'est plus important que l'année précédente, parce qu'il faut que je sois rendu plus loin. Si je ne suis pas rendu plus loin, il faut que je le réalise, que je le demande à Dieu et qu'il me donne la force là, de me mettre à l'action pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps pour revenir sur la bonne voie puis avec son aide, être capable d'aller plus loin. Maintenant, je vous donne juste quelques points de réflexion. Un premier point, c'est de s'examiner soi-même. Soi-même. Souligner soi-même. Vous n'avez pas besoin d'examiner tous vos voisins. C'est vous-même que vous examinez, non pas les autres. Parce qu'encore là, la nature humaine fait des entourloupettes incroyables. Des fois, on a une faiblesse dans un domaine. On dit, oui, il faudrait que je règle ça. Il faudrait que je vienne à bout. Et on demande à Dieu, puis bon, on avance avec ça, mais ça revient et tout ça. Et on regarde d'autres personnes, monnaie, qui ont la même faiblesse, mais qu'on voit comme pire que nous autres. Ils en font plus, ils sont plus de travers que moi sur tel point. Donc, en tant que nature humaine, donc, je suis meilleur que lui ou elle, qui fait la même chose, mais de façon plus grave. Donc, je ne suis pas si pire. Voyez-vous, c'est passable. Avec Dieu, là, c'est pas on passe le test si on a 51%. C'est tout ou rien, comme disait M. Appartient. C'est tout ou rien, il faut le réaliser, ça. C'est ça que je vous dis qu'en s'examinant, là, laissez faire le voisin. Regardez dans votre vie à vous, qu'est-ce qu'il y a à changer. Ne pas se comparer aux autres. Il y a un personnage auquel on peut se comparer. Puis là, ça donne à réfléchir. Vous savez qui? C'est le Christ qui est notre standard. C'est vers ça qu'on s'en va. Il faut revêtir le Christ. Il faut devenir comme lui. Alors là, ça nous donne du travail à faire, puis on n'a pas le temps de regarder les voisins. Et ça, s'examiner soi-même, c'est dans différents aspects de notre vie, dans nos réactions par rapport aux autres autour, par exemple. Est-ce que je prends le temps d'écouter quand quelqu'un vient me parler? Ou si aussitôt qu'il a dit trois mots et demi, puis que je pense savoir qu'est-ce qu'il dit, j'ai la réponse, ou que je vais lui dire ce que moi j'ai envie de dire. Voyez-vous? C'est des choses sur lesquelles on peut s'exercer. C'est une question d'amour fraternel. On a chanté un chant sur l'amour fraternel tantôt. Et même par rapport aux gens de l'extérieur, la culture de Dieu, elle est différente de la culture du monde. Aujourd'hui, vous voyez, les gens ne se parlent plus, ça se crie par la tête et ça s'entrecoupe. Alors, nous, on est environnés de tout ça. Alors, nous, on doit représenter une autre culture et prendre le temps d'écouter les gens. OK? Alors, quelles sont mes réactions? C'est un point sur lequel on peut s'examiner. Est-ce que je m'éloigne des situations qui sont à risque pour moi? Si j'ai une faiblesse dans tel domaine, est-ce que je m'éloigne de ce qui peut m'amener là? Soit des gens qui peuvent m'entraîner là, ou des choses que je regarde qui peuvent m'entraîner à telle chose que je sais être mauvaise. À ce moment-là, j'ai des choix à faire. Je suis mieux de ne pas y aller du tout que d'être à risque. Voyez-vous, l'idée, ce n'est pas d'être le plus proche possible du péché en me disant « je ne pécherai pas ». Voyez-vous? La personne qui a des problèmes d'alcool, elle ne peut pas dire « je vais aller à la taverne, puis je vais juste manger des chips et des pignottes. Je vais juste manger des chips. Je vais aller voir mes amis. » Mais je peux vous dire qu'avant longtemps, il va rester longtemps avec ses amis. Puis les croustilles vont être diluées. OK? Parce que s'il y a un problème d'alcool, mais c'est une façon de... OK? Alors, est-ce que j'ai pris des mesures? Je donne cet exemple-là, mais dans tous les domaines, c'est la même chose. Est-ce que quand j'ai une faiblesse dans tel domaine, je prends les mesures pour m'en éloigner de cette chose-là, pour mettre en pratique des choses qui vont m'aider? Dans ma façon de parler, on doit s'améliorer puis s'examiner même dans notre façon de parler. Peut-être ça vous surprend. La plupart d'entre nous, on parle trop. Oui, on parle trop. On parle trop. Est-ce qu'on a besoin de dire tout ce qu'on dit à la vitesse qu'on le dit? Est-ce qu'on a besoin de prendre le plancher? Est-ce que, vous savez, c'est des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Ça fait partie du christianisme, ces choses-là. Est-ce que je parle durement aux gens? Est-ce que je réponds durement aux gens? Est-ce que je salue? Est-ce que je remercie les gens? Quand même une caissière à l'épicerie, est-ce que je dis merci en partant? Est-ce que je dis bonjour? Ça m'arrive souvent de remarquer ce que les gens font autour des caisses enregistreuses. Et souvent, la caissière va faire son possible pour être gentille. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et vous avez la joyeuse face de bœuf, qui, comme s'il était devant une machine à distributrice ou je ne sais pas quoi. Et pas de bonjour, pas de merci, rien. Et parfois, on a emprunté certaines de ces choses-là, puis on ne s'en rend pas compte. Vous savez, il faut être conscient d'être chrétien et il faut travailler à améliorer tous ces petits aspects-là. Ça, je vous dis, je vous donne aujourd'hui dans le sermon des petits points comme ça qui semblent petits, mais qui ne sont pas petits en fin de compte, parce que c'est la culture de Dieu dans toutes ces choses-là. Est-ce que je traite les autres avec respect? Le Christ nous donne un principe pour ça. Non seulement les autres dans l'Église, mais les autres en dehors aussi. Le Christ nous donne un principe extraordinaire. Puis c'est bon d'y penser, de le rappeler dans notre esprit, puis de l'écrire. Le Christ a dit, considérez les autres comme étant au-dessus de vous. Qu'est-ce que le Christ a fait quand il a lavé les pieds de ses disciples? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a donné sa vie pour des criminels, vous et moi, qui avions causé sa mort? Il nous a considérés comme plus grands que lui, qui pourtant était le créateur de toutes choses et celui qui donne la vie. Alors, est-ce que moi, je pourrais me permettre de dire, je peux traiter les autres comme si c'était rien, être dur envers eux autres, pas de sourire, pas les considérer, et des fois mépriser, même dans ma façon de penser? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à dire, pourquoi je dis telle ou telle chose? Dans ce que je dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est totalement vrai? Est-ce que c'est exagéré? Vous savez, si c'est comme ça, là, je ne suis pas selon la culture de Dieu. J'ai des améliorations à apporter de ce côté-là. Est-ce que c'est nécessaire ce que je dis? Est-ce que ce que je dis de quelqu'un d'autre, ça contribue à édifier ceux qui l'entendent? Ou si ça méprise l'autre personne tranquillement? Hey, es-tu au courant qu'un tel, là? Je vais te dire rien qu'à toi, là. Mais on pense que c'est quelqu'un de bien, mais je l'ai vu l'autre jour. Bon, OK. Vous savez, ça, c'est à la limite, là, c'est poussé. Mais parfois, c'est plus subtil que ça. Des fois, on va dévoiler des choses personnelles de d'autres personnes. Et ça, on ne doit pas faire ça. On doit apprendre la discrétion. Ça fait partie de la culture de Dieu. Il y a des choses qui doivent rester simplement entre deux personnes. Beaucoup de choses. Vous savez, si on enlève tout ça, là, les paroles inutiles, le déluge de mots, souvent alors qu'on ne pense pas assez à ce qu'on va dire, les choses qui rabaissent un peu les autres et tout ça, les choses qui tendent à nous mettre en valeur ou les demi-vérités, vous savez qu'on va parler moins. Enlever tout ça de la conversation, là. Vous savez? Mais non, je dis ça pour qu'on prenne conscience un peu de ce qu'on doit faire. Ce que je dis et ce que je fais, est-ce que c'est selon Dieu? Est-ce que c'est pour édifier les autres? Quand je parle de quelqu'un, est-ce que c'est pour souligner ses qualités? Est-ce que c'est pour l'encourager ou encourager les autres et ainsi de suite? Dans le pire individu qui peut exister sur la planète, il y a du bon aussi et il y a un beau potentiel à l'autre bout aussi. Et il faut voir avec les yeux de Dieu dans ce sens-là. Dans mon couple, est-ce que je prends la peine de voir la différence qui existe entre moi et ma conjointe ou mon conjoint? Parce qu'un homme est différent d'une femme et une femme est différente d'un homme. Est-ce que je prends le temps de voir la différence? Puis ensuite, de la respecter, cette différence-là. Ça, c'est important. Est-ce que je vois aux besoins de ma conjointe ou de mon conjoint qui sont différents de mes besoins? Est-ce que j'ai fait quelque chose cette année pour améliorer mes relations avec ma conjointe ou mon conjoint dans le couple? Alors que j'ai appris plein de choses à l'Église. Est-ce que j'ai passé à l'action? On a vu tantôt, celui qui était un auditeur oublié, il repart avec sa tâche dans le front. Il repart avec sa tâche, il n'a rien changé. OK? Messieurs, quand une épouse vous raconte un peu avec émotion ce qu'elle a vécu ou tout ça, enlevez-vous de la tête d'y trouver une solution. C'est pas ça qu'elle veut. Elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de dire ce qu'elle a vécu puis d'écrire ses émotions et tout ça. Arrêtez de rouvrir la boîte à outils puis trouver facile, fais ça, va voir un tel, appelle un tel. Elle a besoin de parler, d'évacuer ce qu'elle a évacué pour que la pression baisse. Ça veut dire apprendre à connaître son conjoint, la respecter puis agir en conséquence. Mais ça nous demande d'agir, d'aller chercher de l'information puis de décider de changer puis de se mettre en action de changer. Puis plus on va le faire, plus on aura de meilleurs résultats parce que notre conjointe va être plus heureuse et nous, on va être plus heureux aussi automatiquement. Ça ne sera pas un conflit. Combien de conflits pourraient être éliminés juste comme ça? Et mesdames, soyez pas surpris si votre mari est fait comme les anciens carreaux postales qu'on avait dans les bureaux de poste. C'était tous des petits carreaux différents avec un numéro pour chaque abonné. OK? Les hommes sont faits comme ça. C'est que nous, on traite une chose à la fois. Vous allez dire, ça, vous êtes pas fort, ça se peut. Mais on traite une chose à la fois. Alors, si vous savez ça, vous n'allez pas nous inonder avec 220 problèmes en même temps. Alors, on va régler celui-là, puis après, on prendra l'autre. Là, ce dont tu me parles, OK, je t'écoute et tout ça, mais si tu veux, on va attendre à demain, parce que ce n'est pas aujourd'hui que je peux le régler, ça va être demain qu'il va falloir le régler, ou la semaine prochaine. Alors, si tu veux, on n'en parlera plus. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire aujourd'hui pour régler ce qu'on a aujourd'hui. Et là, si on se comprend, ça va beaucoup mieux. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir, puis agir en conséquence. C'est fascinant. C'est des belles découvertes qu'on peut faire. Maintenant, un autre point sur lequel on peut s'examiner en préparation pour la Pâque, c'est-à-dire une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est demander à Dieu de vous montrer. Dans tous ces domaines-là que je vous parle, demander à Dieu de vous montrer. On oublie tellement souvent la première étape dans toute chose, demander à Dieu. On essaie de faire nous-mêmes. Mettez ça dans ses mains. Il va vous répondre, il répond tout le temps. Puis surtout quand on demande quelque chose, selon sa volonté, vous pouvez être sûr qu'il va vous répondre. Alors, demandez-lui de vous montrer les domaines où vous avez réussi des choses cette année. Vous avez besoin d'être encouragé là-dessus. Moi aussi, j'ai besoin d'être encouragé. J'ai pensé un peu cette semaine, puis j'ai vu des domaines où j'avais progressé. Là, j'ai dit merci à Dieu. Mais là, je n'ai pas arrêté là. J'ai dit, Dieu, si tu l'as fait pour ça, là, tu peux le faire pour le restant. J'ai d'autres affaires à régler. Voyez-vous? Alors, on peut faire ça. On peut lui demander, comme un enfant demande à son père, c'est ça. Mais première chose, demandez à Dieu qu'il vous pousse à la repentance, comme c'est écrit. Un autre point, pas juste vous arrêter à réaliser qu'une chose doit être changée, c'est de prendre l'engagement de travailler à la changer. Commencez à faire quelque chose, même si ce n'est pas énorme. Commencez. C'est comme quand on fait un jardin. On ne le fait pas tout d'un coup. On commence un petit coin, on développe. On développe. Prendre l'engagement de maintenir une attitude de repentance jusqu'à la fin de votre vie. Il faut que ça reste avec nous autres, cette idée-là. Jamais il faut que j'arrête de me repentir. Il faut toujours que je sois aux aguets pour voir qu'est-ce que j'ai encore à changer avec l'aide de Dieu. Regardez ce que vous avez changé pour vous encourager, mais demandez-lui de vous montrer les autres choses à changer, puis allez-y. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer dans la repentance aussi. Et pour ça, il faut avoir un plan d'action. Je vous pose une question. C'est une autre façon de vous examiner. Est-ce que vous pouvez identifier des fruits de repentance dans votre vie, au cours de l'année passée, là. Est-ce que vous pouvez identifier des fruits de repentance? Faites une petite recherche, savoir c'est quoi les fruits de repentance, puis regardez dans votre vie, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'y ai pensé? Est-ce que volontairement j'ai travaillé là-dessus? Je vous donne des idées. Est-ce que ça vous a indigné de voir le mal qui se fait dans la société autour, par exemple? De voir la méchanceté, les vols, la convoitise, les dirigeants d'entreprise qui partent avec la caisse de retraite, les viols qu'il y a, les cruautés. Est-ce que ça vous a révolté dans un sens? Est-ce que vous avez été indigné de ça? Est-ce que vous avez été indigné des mensonges qui se véhiculent à cœur de jour dans les médias et chez nos dirigeants et tout ça? Pas indigné dans le sens de « moi, j'en dis des mensonges, mais ils sont moins grave que ceux-là, comme je vous disais tantôt, là. Être indigné de ça, puis être indigné des miens. Parce que souvent, je vous donne une clé, souvent, quand on voit chez quelqu'un d'autre un défaut qui nous irrite, c'est parce qu'on l'a. C'est parce qu'on est atteint du même problème. Quand vous voyez chez quelqu'un d'autre un défaut qui vous irrite puis que vous n'êtes pas capable de le supporter, dites-vous que vous avez le même problème, vous avez des grandes chances que vous soyez atteint de la même chose. C'est fort, ça c'est une clé aussi. Est-ce que vous pouvez identifier des fruits de la repentance? Un des fruits de la repentance, par exemple, est-ce que vous avez eu cette année un fort désir de faire le bien, de faire ce que Dieu demande? Est-ce que vous avez eu ça à cœur? Si oui, c'est un fruit de repentance. Voyez-vous? C'est le fun de le voir comme ça, ça fait du bien, ça encourage. Parce que si on dit oui, je l'ai vécu ça, ça m'arrive de temps en temps. Bon, bien là, vous êtes sur le chemin de la vraie repentance et vous êtes en train de changer. C'est des fruits. Est-ce que vous avez un zèle pour vivre selon les voies de Dieu? Un zèle, là. dire, moi, il faut que je change ça cette année. Puis je vais tout faire en mon pouvoir. Je vais d'abord demander à Dieu, s'il faut, je vais jeûner. S'il faut que je jeûne plus qu'une fois, je vais jeûner plus qu'une fois. Mais il y a tel point, tel point, tel point que je veux régler cette année. Je veux progresser là-dedans. Là, Dieu voit votre zèle. Et c'est écrit, le royaume des cieux appartient aux violents. Peut-être que vous avez jamais compris ce mot-là dans la Bible, dans certaines traductions, c'est marqué « le royaume de Dieu appartient aux violents ». Ce n'est pas les violents dans le sens d'une violence mauvaise. C'est que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont zélés pour y aller, ceux qui veulent de tout cœur être là. Un autre fruit de la repentance, est-ce que vous avez eu du zèle pour l'œuvre? Est-ce que vous avez eu du zèle pour l'œuvre cette année? Est-ce que vous avez prié pour les besoins de l'Église? Si vous n'avez pas assez prié pour les besoins de l'Église, alors qu'on vous en a fait part au cours des mois, dans les annonces, puis tout ça, si vous n'avez pas assez prié, décidez que cette année, vous allez le mettre sur votre liste, puis que pendant 2-3 semaines après, vous allez en reparler à Dieu. Après ça, vous allez ajouter d'autres choses à votre liste et tout ça, mais vous allez le faire. Ça, c'est le zèle pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez été fidèle cette année dans vos dîmes et dans vos offrandes? Ça, c'est à vous. Régler ça. Mais on n'en sort pas. Si vous allez voir dans Malachie 3, verset 8-9, je ne vous le lirai pas, mais Malachie 3, verset 8-9, Dieu dit, « Vous me volez si vous ne payez pas mes dîmes. » Je résume un peu. Alors, on ne peut pas voler Dieu et penser qu'on va être en train de se repentir et en train d'être dans la bonne attitude pour développer le caractère de Dieu et s'approcher de lui comme il faut et croire. Pas du tout. Faut régler ce point-là. Si vous n'avez pas été fidèle, décidez de l'être. Faites un trait sur votre vie. Vous dites, maintenant, à partir de maintenant, je vais être fidèle dans mes dîmes et généreux dans mes offrandes, selon mes moyens, bien sûr, en ce qui concerne les offrandes. Il y a des promesses extraordinaires par rapport à ça. Et on le sait, il y a plusieurs d'entre nous, on pourrait raconter ce qu'on a vécu dans ce sens-là, à cause de la fidélité aux dîmes. Dans Philippiens 4, verset 19, c'est marqué, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors, ailleurs, il dit, ne vous inquiétez de rien, et ainsi de suite. Bon, autrement dit, faites ce que je vous demande, ce que Dieu nous dit, puis il dit, laissez-moi faire le reste. Je vais prendre soin de vous. Si on a été fidèle dans nos dîmes, puis on a été généreux dans nos offrandes, voyez-vous, on peut dire à ce moment-là, waouh, ça je l'ai. Bon, ça je l'ai eu. Alors, vous avez un bon point pour vous, puis on peut s'encourager avec ça, dire, là-dessus, je suis correct. Et puis, on peut remercier Dieu de nous avoir aidé à le voir comme il faut, puis avoir été capable de le faire. Si vous avez transgressé cette loi-là, on se repent, on demande pardon à Dieu, on demande son aide pour apprendre à donner. Parce que c'est donner, payer la dîme et les offrandes. Et là, après ça, on peut aller prendre la Pâque avec foi, en sachant que Dieu va nous pardonner parce qu'on est désireux vraiment de changer. Maintenant, un autre point. Est-ce que vous êtes facilement prêt à admettre vos fautes et vos erreurs? Ça, c'est un point important. Un point de base, je dirais. Est-ce qu'on est prêt facilement à admettre nos erreurs puis nos fautes? Ou bien, si quelqu'un vient nous faire la remarque qu'on a fait quelque chose de pas correct, ou qu'il l'a offensé, ou qu'il lui a nui, ou qu'il ne comprend pas, si vous rejetez tout de suite ce qu'il a dit, sans même le considérer, je parlais tantôt d'écouter, là, sans même considérer ce que la personne a à vous dire. La personne vient vous voir et elle dit, « Bien, quand tu as dit telle affaire, ça m'a vraiment blessé. Il faut que je te le dise parce que je suis mal à l'aise avec ça. J'aimerais ça. Je ne veux pas qu'il y ait rien entre nous et tout ça. » Si la personne qui est visitée par l'autre qui a été offensée, comme ça, ne veut rien savoir, n'admet rien, ou même se fâche quand on lui dit un trait de caractère qui ne va pas ou quelque chose qui n'a pas été correct, ou si vous mettez le blâme ailleurs, ça ne va pas du tout. Puis on a vu tantôt, dans ce qui nous a été présenté, que pour être pardonné, il faut pardonner. Et on est des ambassadeurs de paix. On est des ambassadeurs de paix. Il faut qu'on fasse régner la paix dans l'Église. Et dans ce sens-là, il faut faire des concessions. Et des fois, il faut passer par-dessus certaines choses carrément aussi. Il y a des choses peut-être que je vous ai faites au cours de l'année qui vous ont blessé que je ne me suis même pas rendu compte. Vous savez? C'est la même chose entre nous. Il faut être capable de faire la part par rapport aux autres, si vous voulez, dans ce sens-là. Puis on a besoin que les autres le fassent aussi. Puis je vous remercie de l'avoir fait parce qu'il y a des erreurs que j'ai faites durant l'année sûrement. Ça peut pas faire autrement. On est des êtres humains encore. Mais il faut pas blâmer les autres. Vous savez, Adam, il dit, « Bien, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, c'est pas moi, là. » La femme a dit, « Bien, c'est pas moi, c'est le serpent. » Serpent, il n'y a eu personne à... Serpent, il n'y avait pas personne à accuser, lui, là. Mais on a tendance à faire ça aussi. Pas de ma faute, c'est arrivé de même, il y a une circonstance, il y a ci, non, on reconnaissons nos torts. Puis je vois plus loin. Il faut être prêt même à reconnaître, je dirais, plus que nos torts, s'il faut. Vous savez, quand la Bible dit « tendez l'autre joue, s'il faut », là, c'est qu'il faut devenir des pacificateurs, à un moment donné. Puis à un moment donné, il faut laisser passer des choses. Puis être au-dessus de ça. Autrement dit, est-ce que j'ai tendance à être comme Saül? Vous savez, c'est l'histoire du roi Saül, qui dit « Non, non, j'ai fait ce que Dieu a dit, mais il avait fait simplement le contraire. Il avait gardé les animaux, il avait gardé le roi, alors que Dieu avait dit de tout détruire. Ou est-ce que je suis comme le roi David? » Si vous marquez l'attitude du roi David là-dedans, c'est formidable. Quand le prophète de Dieu allait vers le roi David et il disait « T'as mal agi », tout de suite, ça ne prenait pas longtemps, tout de suite il disait « Oui, je reconnais mon erreur et je demande pardon à Dieu, je suis coupable ». Il prenait tout sur ses épaules. Même dans l'histoire de Bathsheba, il n'a pas trouvé un prétexte parce qu'il avait vu Bathsheba se baigner nu du haut de son balcon du palais. Il n'a pas essayé de dire « Oui, mais c'est elle là qui s'est baignée nue sur le toit de sa maison. Puis c'est à cause de ça que je suis allé la voir. » Il n'a pas essayé de mettre la faute sur l'autre. Il dit « Je suis coupable. J'ai fait ce que j'ai fait. Je le reconnais. Je te demande pardon. Aide-moi. Purifie-moi. Lave-moi. » 1 Jean 1, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 1. On va commencer au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, OK? On peut dire qu'on n'a pas de péché du tout, c'est une façon. Mais on peut dire que notre péché n'est pas tellement grave. C'est un petit péché. Alors qu'on a vu clairement depuis des années et des années, et M. Appartien nous le dit souvent, il n'y a pas de petit péché. Il y a péché ou non-péché. OK? Alors, c'est de s'amener au cinéma que de se faire croire que nous ne sommes pas si mauvais après tout. Non. On est fondamentalement mauvais au point de départ. Il faut éliminer toute cette méchanceté-là. Il faut avoir les pains sans le vin de la pureté et de la vérité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Voyez-vous, on risque de perdre à ce moment-là, de perdre du terrain. Si nous confessons par contre nos péchés, regardez, Dieu est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a rien de trop grave pour lui. Mais quand on se repent, quand on les reconnaît. Vous pourrez aller voir Proverbe 28, verset 14 et verset 13, c'est vraiment intéressant aussi. Alors, au cours d'années écoulées, autre chose à vérifier. Est-ce que je suis coupable d'avoir négligé de prier chaque jour? C'est pas quelque chose qu'on pense à s'examiner là-dessus quand arrive la Pâque et les pains sans levain. Est-ce que je me suis fait un devoir de prier chaque jour? De faire, si c'est plus facile, je pense que c'est le cas pour tout le monde, le matin, la plus longue prière qu'on peut faire avant de commencer notre journée. Et là, c'est important, parce qu'avant de commencer notre journée. Et je connais des gens qui se lèvent plus tôt, parce qu'ils vont travailler tôt, pour être capables de parler à Dieu pendant un bon bout de temps. Et c'est ce qu'il faut faire. Si vous le faites, voyez-vous, vous portez des fruits de repentance et vous êtes en train de bien vous préparer à la Pâque. Mais si vous ne l'avez pas fait comme il faut cette année, c'est le temps de corriger. Et à mesure que les années passent, c'est de plus en plus le temps de corriger le tir là-dessus aussi. On a les exemples de Daniel puis de David qui priaient 3 fois par jour. Alors nous, on peut prier longtemps le matin, puis on peut prier le soir avant de se coucher, parfois un peu sur l'heure du midi aussi, mais dans le jour, on peut s'adresser à Dieu constamment pour différentes choses. La Bible dit prier sans cesse, vivre dans une attitude de prière. Et regardez ce que le Christ a dit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu comme ça, mais la prière, c'est un commandement. Même si ce n'est pas écrit, ceci est un commandement. Quand le Christ a parlé de la prière, il a dit ceci, « Lorsque vous priez, Matthieu 6, verset 5. » Il n'a pas dit « si vous priez ». Quand il dit « lorsque vous priez », ça veut dire « il faut que vous priez ». Voyez-vous la différence? C'est un commandement. Il faut voir à travers les paroles ce que le Christ disait. Les désirs du Christ deviennent des commandements pour nous. C'est ça. Lorsque vous priez, et regardez, même le Christ priait qui? Priait son Père. Parce qu'il a dit à un moment donné, je ne puis rien faire de moi-même. Et c'est notre exemple en toute chose. Alors comprenez-vous pourquoi on ne peut pas sauter une journée sans prier? Même chose pour l'étude biblique. Est-ce que j'ai été fidèle au cours de l'année pour étudier chaque jour la parole de Dieu de façon régulière? Ou si j'ai sauté régulièrement, ou j'ai fait un peu ici, un peu là? Dieu nous parle directement par sa parole écrite. Attention, je dirais, de refuser à un moment donné d'entendre Dieu. C'est écrit dans la Bible. Attention de refuser d'entendre la voix qui nous parle par les Écritures. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait directement, ou le Christ a parlé directement, mais à nous, il nous parle directement par la Bible aussi. Il nous inspire, bien sûr, par son Saint-Esprit. Et un chrétien doit vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais si je ne m'en nourris pas chaque jour, comment je vais la connaître? Et ce n'est pas parce que je les lis depuis quelques années que je la comprends vraiment totalement, au contraire. Ce n'est qu'un début. Et elle est tellement profonde. Alors écoutez, c'est le temps, quand arrive le ménage des pains sans levain, et spirituellement dans nos vies, de nous faire un plan pour l'année qui vient, de nous engager à internaliser la Bible, à la prouver, à en vivre, à la mémoriser, comme les Béréens faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit que chaque jour, ils vérifiaient les Écritures. C'est comme ça qu'on va être solide dans les temps de tempête qui sont là autour et qui vont se développer encore plus. Comme ça qu'on va être solide, parce que notre Bible, elle va être en dedans de nous. Dans notre mémoire là, même si ce n'est pas parfait, mais Dieu va nous les rappeler lorsqu'il faudra. Et elle va être dans le cœur là parce qu'on va en vivre. On va en avoir vécu pendant des années. Autre façon de s'examiner. Est-ce que j'ai jeûné au cours de l'année seulement à la fin des expiations l'année passée? Ou si j'ai volontairement fait d'autres jeûnes au cours de l'année? Le jeûne, c'est un outil majeur pour s'approcher de Dieu, pour avoir la force de Dieu. Alors, si je n'ai pas jeûné plus que le jour des expiations, je suis coupable devant Dieu d'avoir été négligent de m'approcher de lui. Ça fait partie de ça. À un moment donné, on se plaint d'être faible, puis on ne met pas en utilisation les outils extraordinaires que Dieu nous donne. Et vous le savez, quand on fait un jeûne, on repart sur les chapeaux de roue, pour ainsi dire. Et les choses se règlent, on voit plus clair. Pourquoi? Parce qu'on s'est approché de la puissance de l'univers, de notre grand Dieu. C'est ça qui s'est passé. Et parce que on a absolument besoin de jeûner régulièrement. C'est un outil que Dieu nous donne. Maintenant, un autre point rapidement ici. Et je vous donne de quoi il s'agit. Est-ce que vous avez manifesté de l'amour envers vos frères et sœurs dans l'Église au cours de l'année? Est-ce que vous avez manifesté de l'amour? Pas juste éprouver un sentiment dans votre cœur. Qu'est-ce que le Christ a dit? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Après ça, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lui est allé loin, là, pour nous aimer. Après ça, il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, ça doit être un signe entre nous. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, de l'amour véritable. Maintenant, vous pouvez vérifier vous-même si vous en avez. Ça, c'est le fun de le faire, l'exercice. Parce que là aussi, on peut se dire à un moment donné, « Ouais, je l'ai fait. Donc ça, je l'ai. Je vais développer d'autres choses ou je vais le faire encore l'année prochaine. » Et on s'encourage comme ça. Dieu sait qu'on a besoin d'encouragement. Comment est-ce que vous avez manifesté de l'amour? Question. Est-ce que vous avez prié pour les malades dans l'Église? On vous a donné des noms au cours de l'année, les besoins qu'il y avait de ce côté-là. Si vous avez prié, si vous vous êtes fait un devoir de prier pendant un certain nombre de jours pour ces malades-là, avant d'ajouter d'autres noms à votre liste ou ainsi de suite, vous avez fait la volonté de Dieu. Et vous êtes en marche. Et vous êtes en train de plaire à Dieu. Et vous développez son caractère. Une autre façon de manifester de l'amour. Est-ce que vous avez visité les malades? C'est intéressant parce que on a M. Plante qui est à l'hôpital depuis déjà un bon bout de temps. Et je sais que les gens de l'Église sont allés le voir. Et ça lui a fait du bien, ça lui a fait plaisir énormément. Et c'est un besoin. C'est un besoin pour lui, mais c'est un besoin pour moi de visiter mon frère qui est malade, pour l'encourager, même si je ne suis pas longtemps. D'aller, lorsqu'il y a une mortalité ou quelque chose, d'aller au salon pour encourager les personnes. Vous savez, des fois, on peut être porté à dire, non, je n'irai pas au salon. Certaines personnes disent, je ne peux pas aller au salon funéraire parce que je suis trop gêné, je ne saurais pas quoi dire. OK? Faut pas. si on a cette attitude-là par rapport à quelqu'un qui nous est proche et qui a besoin de notre présence ou de l'encouragement, c'est parce qu'on pense plus à nous qu'à la personne. Pensez-y un petit peu, là. Si je dis « j'y vais pas parce que je me sens pas à l'aise dans un salon funéraire », je pense à qui? Je pense à moi. J'y vais pas pour moi. J'y vais pour l'autre qui a perdu quelqu'un, même si je ne sais pas quoi dire. Même si je dis simplement « j'ai pensé à vous, bonne journée » ou « mes amitiés ». Souvent, je vais juste dire « mes amitiés » tout ça, et on passe, mais la personne nous a vus et tout ça. Et parfois, la personne va nous parler, elle. Va nous poser des questions ou va nous raconter un peu ce qui est arrivé par rapport à la personne décédée. Mais on y va pour l'autre et non pas pour nous. Voyez-vous, c'est des choses auxquelles on peut penser. Est-ce que vous avez manifesté de l'amour envers les autres en pardonnant à ceux qui vous ont offensé? Pardonnant vraiment, là, à ceux qui ont péché contre vous. En effaçant ça puis en jetant ça derrière. Et si vous avez offensé quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez fait comme la Bible dit, d'aller en parler à la personne et de dire « je m'excuse, j'ai été trop loin » ou « mes paroles ont dépassé ma pensée », si c'est vraiment le cas, ou « j'avais pas compris telle chose » ou « j'ai été trop vite » ou quoi que ce soit. On est dans l'Église tous les deux, il faut qu'il y ait de la paix dans l'Église et de l'harmonie. Je prends sur moi ma responsabilité, excuse-moi des choses que j'ai faites. Si vous avez manqué dans un de ces points-là ou dans d'autres qui s'ajoutent là-dessus, demandez honnêtement pardon à Dieu, puis décidez de croire dans l'amour fraternel, de le pratiquer l'année prochaine, ça. Maintenant, le dernier point, rapidement, et c'est pas le moindre, j'aurais pu le mettre au début quasiment. Est-ce que j'ai été reconnaissant cette année, en toute chose? Est-ce que j'ai été reconnaissant en toute chose? D'abord à Dieu, puis ensuite, aux gens autour de moi. Je reçois plein de choses des gens autour de moi. Est-ce que j'ai été reconnaissant envers mon conjoint? Est-ce que j'ai été reconnaissant envers mes patrons? Envers mes collègues de travail? Est-ce que j'ai trouvé le tour de dire merci pour ce qu'un a fait pour moi ou pour un petit service rendu ou ainsi de suite, pour montrer mon appréciation? C'est un signe de respect, c'est un signe d'affection et c'est la culture de Dieu, de remercier. Remercier d'abord Dieu pour toute chose. Mais remerciez les autres qui font des choses. Messieurs, est-ce que vous remerciez régulièrement votre épouse pour ce qu'elle fait pour vous? Est-ce que vous manifestez des gestes d'appréciation? Mesdames, est-ce que vous faites la même chose par rapport à votre mari qui fait des choses pour vous aussi? C'est des choses qui sont importantes puis qui encouragent. Vous savez, M. Appartient dit souvent que l'ingratitude, c'est peut-être le plus grand des péchés. Puis, vous y penserez, je pourrais faire un sermon juste là-dessus, là, mais l'ingratitude, c'est parce qu'il n'y a rien qui nous est dû. Partons de ça. Il n'y a rien qui nous est dû. Tout nous est donné. La vie, l'air qu'on respire, la nourriture. Ce qui est sur la table, mon épouse l'a préparé. Si j'ai pu aller l'acheter, c'est parce que Dieu m'a permis d'avoir les moyens de le faire. Quelqu'un vient nettoyer ma cour l'hiver, le monsieur l'a fait, je peux lui dire merci. Même s'il est payé, je peux dire que j'apprécie ce qu'il a fait pour moi, qu'il a fait un bon travail. Pourquoi je ne le ferais pas? Lui, ça va l'encourager. C'est la culture de Dieu, de reconnaître les bienfaits qui nous sont donnés. Vous savez, humainement, c'est extrêmement facile de prendre les bénédictions pour acquises. Prendre les bienfaits pour acquis. Alors, il est payé pour faire ça. Il est payé pour faire telle affaire. Non. Il fait telle affaire, d'accord, il est payé. Mais je peux apprécier qu'il fasse telle chose pour moi. Voyez-vous? Ça, c'est au-delà. Ça, c'est la façon chrétienne de voir les choses. Humainement, c'est facile de prendre les bénédictions pour acquises comme si ça allait de soi. Même, on va plus loin en tant qu'humain parce que on va même jusqu'à s'étonner qu'il n'y en ait pas plus, des fois. Avez-vous remarqué? Il y a des gens qui ont plein de choses puis qui ne sont pas satisfaits, ils sont étonnés qu'il n'y en ait pas plus. Et nous, parfois, on peut, sans s'en rendre compte, en vouloir encore plus. Soyons reconnaissants de ce que Dieu nous donne et apprécions-le, apprécions ce que les autres font pour nous. Vous savez, il y a toute une leçon de vie dans l'histoire chez les Israélites, là-dedans, nos ancêtres autrefois. Plus les Israélites ont été bénis, moins ils ont été reconnaissants. Avez-vous remarqué? Plus ils ont été bénis, moins ils ont été reconnaissants. Dieu avait dit, hein, faites attention, quand vous allez entrer dans le bon pays que je vous donne, là, quand vous allez être gras et replet, quand vous allez manger à satiété, quand vous allez avoir plein de beaux fruits et tout ça, faites attention de ne pas oublier l'Éternel. Lorsqu'on est dans l'abondance, on en demande encore plus. Lorsqu'on est dans la pauvreté, j'ai passé par là aussi, on apprécie le peu qu'on a. Puis on dit merci pour le peu qu'on a. Mais il faut faire attention, quand l'abondance vient plus tard, de ne pas oublier ces choses-là. Ça ne nous est pas dû. Ça ne nous est pas dû, absolument pas. Alors les Israélites ont manqué de reconnaissance, plus ils étaient bénis. Ils ont été délivrés de l'esclavage, de la plupart des plaies d'Égypte. Ils ont été délivrés à la dixième plaie de la mort des premiers-nés. Ils ont traversé la mer Rouge et tout ça. Et tout de suite après, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à accuser qu'il n'y avait pas suffisamment. Vous savez, pour résister au découragement puis au doute, et ça, c'est les armes préférées de Satan, de nous décourager puis de nous faire douter. Il faut fixer notre attention sur les bénédictions. Faites la liste des bénédictions. Essayez de faire la liste des bénédictions chaque jour, chaque semaine. Dites à Dieu, merci de ça, 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 ça. Certains ont un petit livre qui marque, où ils marquent les bénédictions que Dieu leur accorde, les problèmes qui se règlent, les portes qui s'ouvrent, et ainsi de suite. Et quand ils sont un petit peu découragés, ils retournent dans ce cahier-là, puis ils regardent qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé. Sachant que c'est le même Dieu éternellement, hier, aujourd'hui, éternellement, il va faire la même chose, il l'a déjà fait pour moi. Et là, on apprend à remercier continuellement. Et vous savez, une personne qui remercie, une personne qui est reconnaissante, ça ne peut pas être une personne malheureuse. C'est une personne heureuse. C'est une personne qui sourit. Oui, parce qu'elle a plein de choses, même si c'est peu. Elle est reconnaissante. Elle reconnaît ce qui lui est donné. Alors, on a vu quelques points aujourd'hui, donc, sur lesquels s'examiner. On n'a pas fait le tour, loin de là, là. On a fait juste un petit survol à chacun de nous d'aller plus loin en préparation. On va voir, en faisant ça, davantage notre nature humaine, c'est sûr. On va voir les faiblesses et les manquements qui sont les nôtres. On va voir notre besoin de vaincre aussi. Et on va reconnaître avec joie. Ça, je reviens avec la joie. On va reconnaître avec joie et avec reconnaissance qu'on a besoin absolument de notre grand frère, de la puissance de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, c'est un auto-examen sincère qu'on a commencé à faire. Et ça va nous amener à réaliser le besoin de prendre la Pâque. On a besoin de prendre la Pâque. Pas parce qu'on est parfait. On ne prend pas la Pâque parce qu'on est parfait. On prend la Pâque parce qu'on est imparfait encore. Puis on a besoin du pardon de Dieu. Puis on a besoin de continuer le combat. On a besoin, je dirais, puis ça serait le fun de le faire cette année comme ça. Le Christ a dit à un moment donné, concernant la dernière Pâque qu'il a pris avec ses disciples, « J'ai vivement désiré prendre cette Pâque avec vous. » Et nous, il faut en arriver à la Pâque à dire « J'ai vivement désiré cette Pâque. » Et d'une année à l'autre, j'ai encore plus vivement désiré, Père, prendre cette Pâque-là avec toi. Et remercier à Dieu de nous avoir gardés en vie au cours de l'année, de nous avoir donné des victoires, de nous avoir corrigés, de nous avoir montré nos faiblesses, de nous avoir encouragés. Alors, c'est la saison, oui, des fêtes du printemps. Et c'est une merveilleuse occasion de faire le point sur notre vie spirituelle et de prendre un nouveau départ. C'est ça. Ça, je dis que c'est une fête de joie aussi. On n'est pas parfait, on demande la miséricorde de Dieu, mais c'est le temps de prendre un nouveau départ. En terminant, allez à Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Un passage tellement, tellement encourageant. Hébreux chapitre 4, on va commencer à lire au verset 14. Il est écrit ici, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Et on doit avoir une fermeté dans le désir puis dans l'action de nous préparer pour les fêtes du printemps. Demeurons fermes dans cette foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il comprend nos faiblesses. Pourquoi? Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais il est passé en tant qu'être humain par l'expérience humaine. Il a vécu plein de choses sans jamais pécher. Il a vu ce que le péché faisait autour. Il l'a vécu aussi. Il en a souffert. On dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre le péché. Alors, regardez ce qu'il dit au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Et c'est comme ça qu'il faut approcher la Pâque et les pains sans levain. Si on a à cœur de continuer à persévérer pour se repentir. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce Pourquoi? Pour obtenir miséricorde encore et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et nos besoins sont de continuer à vaincre encore jusqu'au retour de Christ.